I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre petit salon de discussion mensuel ou presque autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici. Une petite heure où on va causer, débattre et faire quelques blagues car on ne pourra pas s'en empêcher, enfin certains autour de la table ne pourront pas s'en empêcher, suivez mon regard qui va tout... c'est pas grave. Je suis évidemment pas seul pour tout ça. Autour de la table de l'antenne Paris, il y a un quatuor de choc, Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Ah, voilà. Julien Dupuis, salut Julien.
Bonsoir.
Alexandre Arvaux.
Salut.
Salut Alex. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Les films de genre au César, enfin de genre on verra, la mode incessante du tournage en vrai de vrai et les réalités qu'elle masque et les accusations de plagiat plus ou moins bidon qui agitent le tout Hollywood. C'est le programme de la 4e édition de ce No Ciné Club et c'est parti.
Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
Et sachez, si vous nous suivez en direct sur Facebook ou YouTube, que vous pouvez interagir donc avec nous dans les commentaires. Interpellez-nous, posez-nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur. C'est promis, premier sujet du jour. Les nominations au César viennent de tomber, si nous n'en attendions pas grand-chose. Un détail, cela dit, nous force à nous y arrêter un instant. Grave, le film d'horreur, avec les guillemets de circonstance, de Julia Ducournau, auquel nous avons consacré une émission par le passé. Grave, donc, récolte 6 nominations. Un film de genre, oui c'est ça, un film de genre avec des guillemets, là encore, ainsi mis en lumière par l'institution avec un grand I. Qu'est-ce que ça nous dit? Faut-il s'en réjouir ou n'est-ce là qu'une preuve supplémentaire de la cannibalisation, sans mauvais jeu de mots, ou plutôt avec un mauvais jeu de mots, de ce territoire bien particulier par l'establishment tout moisi du vieux cinéma français à la papa? Qui va se lancer? Je sens que c'est Arnaud qui va commencer.
Oui, bah donc voilà, c'est une première, hein. C'est la première fois que le cinéma d'horreur accède à l'Académie des Césars. Bon, voilà, les Oscars, c'est la première fois qu'un film fantastique avait été nominé, c'était...
Nommé,
pardon.
Putain, hein. Ce sera intransigeant.
Voilà, n'est-ce pas? Les Oscars, c'était Le Seigneur des Anneaux, hein, le premier film fantastique.
C'est un peu notre Seigneur des Anneaux à nous, qu'est-ce que tu veux?
Voilà. Donc, moi, je pense que c'est l'aboutissement logique de la trajectoire d'un film qui a été encensé par le tout Paris culturel, quoi, à grand renfort d'articles dans toute la presse, hein, journaux généralistes de cinéma, journaux féminins, tout, quoi. On l'a vu partout, ce film. Donc c'est un petit peu normal aussi les entrées qu'il a fait, je pense. Mais le fait qu'il se retrouve nommé donc au César, ce que je disais, c'est quelque part logique parce que, en fait, je pense qu'on assiste. Le problème, c'est qu'on assiste depuis quelque temps, depuis quelques années déjà, à une sorte d'OPA du cinéma français de qualité, entre guillemets.
Hein, de qualité.
C'est-à-dire, en gros, le cinéma d'auteur, hein, la française, sur le cinéma de genre. Voilà, ils se sont piqués de ça depuis quelques années. Je me rappelle que déjà, je m'étais fait la réflexion avec le succès de la série... Les Revenants, parce que c'est exactement ça. Hein, le pitch était intéressant à la base, mais alors, je veux dire, après l'exécution, c'était digne d'une famille formidable. Hein, c'était ça.
Je trouve dur. J'ai trouvé la première saison pas inintéressante sur son début, sur sa première moitié.
C'était des marivaudages, des trucs des querelles de maison.
Vous m'avez manqué, Bordas.
Non, mais vraiment, voilà, moi, ce que j'appelle cette esthétique du quotidien et qui est omniprésente dans le cinéma français en général. Hein.
Voilà. Les films où on va acheter le pain.
Voilà, les petits rien du tout de tous les jours qui nous renvoient à notre vie de merde, à nos petits matins gris. Voilà, c'est ça qu'on aime bien faire en France. Et donc maintenant, ces gens-là, ils veulent appliquer ça au cinéma de genre. Donc forcément, c'est un petit peu énervant quand on sait déjà le passé qu'on a, les Français, dans le genre. Mais on semble avoir laissé tout ça aux orties et vouloir s'engouffrer dans cette brèche. Parce que le problème avec le genre, c'est que le genre, c'est quelque chose qui charrie des codes, des codes souvent qui viennent de loin. Donc il faut les maîtriser un petit peu, ces codes. Et si on les fout à la poubelle d'entrée pour filmer des choses insignifiantes, ça devient vite problématique. Moi, j'aurais préféré que ce soit d'autres gens qui s'accaparent ça, qui fassent des succès avec, que la presse les soutienne. Mais c'est toujours pareil, quoi. Quand il y a des vrais bons films de genre, il n'y a pas des campagnes de presse montées de toutes pièces comme il y a pu avoir sur Grave. Donc voilà, mais moi au bout du compte, c'est ce que je me dis déjà depuis plusieurs années, c'est pas en faisant ça qu'on construira une véritable enfin quelque chose d'industriel, quoi, une véritable production de cinéma de genre. Ça restera des one shot, un télo qui feront l'événement des gazettes pendant un certain temps, et puis qui feront le tour des festivals, qui feront un peu sensation à l'international aussi, parce que ce qui est terrible, c'est que les Français, on est en train de véhiculer cette image-là maintenant, quoi. Les Américains adorent tout ça, ils aiment bien aller s'encanailler devant ce genre de conneries, et donc c'est pas comme ça qu'on reconstruira, qu'on remettra sur pied un vrai cinéma genre, parce que ces films-là ne sont pas des films populaires, ces films-là ne sont pas des vrais films, des vrais succès populaires. Ce ne sont pas des œuvres de cinématographique au sens plein du terme, hein, c'est-à-dire donc comme je disais qui récupèrent des codes, qui jonglent avec. C'est juste toujours la même soupe, quoi, avec les mêmes acteurs qui tirent la gueule, une image pas très soignée, des décors à se flinguer. Voilà, c'est donc les gens veulent ça, qui prennent ça et puis voilà. Allez, je vous lâche, je vais me flinguer.
Ah, les gens, c'est des cons. Voilà. Alexandre.
Alors, moi, je ne vais pas du tout revenir sur le débat Grave.
Non, oui, d'ailleurs, on a déjà fait l'émission.
Je reviens dessus parce que tu avais aimé à l'époque, mon salaud.
Oui, mais
j'ai découvert le film récemment et j'aimerais bien savoir pourquoi.
Non, mais justement.
Mais t'as qu'à écouter l'émission.
Non, et d'ailleurs, l'émission, elle avait fait avec Arnaud, sauf erreur.
Tout à fait.
Mais non, au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand bien même on détesterait Grave pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, un peu caricaturalement à mon goût, mais bon, bref. Quand bien même, c'est un peu comme c'est comme le succès public en salle du Pacte des Loups à une certaine époque, qu'on pensait que ça allait amener quelque chose, une sorte d'appel d'air où on allait voir des films de genre en France friqués avec des costumes, du budget, etc. Bon, il s'est avéré que ça a été un peu plus compliqué que ça par la suite.
Mais après, ils sont plantés.
Et voilà. Et ben, je me demande si qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, si cette petite razzia de nomination au César, qui va peut-être aboutir à un bide complet, hein, il est fort possible. Ça me ferait vraiment chier pour le coup pour juste pour la catégorie score, Jim Williams qui a fait la BO, je trouve vraiment très bien. Ça me ferait chier qu'il l'ait pas. Mais bon, bref.
Tu sais comme moi que c'est 120 battements par minute qui va récupérer le score.
Potentiellement. Ouais. Mais en tout cas, c'est cette première avancée, ce pied dans la porte, voilà, est quand même quelque chose d'assez significatif. Et en soi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, il y a quand même plutôt matière à s'en réjouir. On peut être grincheux, on peut rechigner, on peut être critiquer plein de choses, mais en tout cas le simple fait que le film,
les gens qui aiment pas le film, ils sont grincheux.
Non. Non, mais voilà, est-ce qu'il y a une hypocrisie dans ce choix là pour les nominations de par son relatif succès public. Je dis bien relatif, hein, il a fait un peu plus de 100 000 entrées, je crois, ce qui est pas
200 000,
un carton full, mais bon, voilà, 200 000, ce qui est quand même pas négligeable pour un film
encore une fois avec une campagne médiatique digne d'un Marvel, quoi.
C'est chiant, t'es pas.
Mais ouais, mais, non, mais si, tu pousses.
Mais, si. Mais vraiment, moi, à l'époque, j'hallucinais sur la presse. C'était partout. Et donc, que le film, au bout du compte, il fasse, je sais pas, donc entre 100 000 et 200 000 entrées, bon, bah, tu te dis oui, voilà.
Allez, 150 000.
Au bout d'un moment,
il y avait un concours de circonstances pas mal pour ce film-là. C'est parce que, au-delà de sa tournée des festivals où il avait été remarqué, Cannes, des trucs un peu plus confidentiels après, etc. Effectivement, des trucs un peu bobo branleurs, genre les, il avait été montré au festival SoFilm, etc. Il avait été montré au festival du film Grolandais, etc. Bon, bref, il avait fait vraiment la tournée des popotes des festivals, mais il avait aussi fait, c'est là où tu disais justement qu'à l'étranger, on commençait à avoir cette image-là du film de genre français, même si c'est, les films de Pascal Laugier aussi donnent une image plus ou moins faussée des films de genre à la française outre-Atlantique. Mais Raw, parce que ça, c'est pas je viens pas de
faire
un jeu de
mots,
c'est juste que c'est le titre en VO, enfin le titre en version américaine du film, c'est Raw, R-A-W. Il avait été présenté, sauf erreur, je crois que c'était à Toronto, quelques semaines avant sa sortie en France. Et c'est là qu'il y avait eu ce petit côté un petit peu gimmick marketing, buzz, etc. Où en gros, on avait dit des gens se sont évanouis dans la salle, ou des gens font des malaises, des gens sont partis de la salle. Et tout ça,
c'est
il y a déjà eu la Cannes, mais il y en avait eu vraiment, on va dire que le
des gens qui n'étaient jamais allés au cinéma,
potentiellement, ou des petits vieux qui avaient mangé un McMuffin mal digéré le matin.
Une poutine un peu trop grasse.
Et le fait est que ça avait construit cette image, cette réputation, cette odeur un peu vaguement de soufre du film, bon, qui n'était pas forcément méritée, certes, mais bon, en tout cas, je pense que le film, il y a peut-être, comme disait Arnaud, une partie un peu branlette généralisée, ça c'est pour nos amis qui regardent sur en vidéo, hein. Mais je pense aussi que le film a vraiment aussi eu cette petite part de chance, de conjoncture, désastre, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, en gros, que c'est pas uniquement un truc cynique et une mécanique marketing bien huilée, sinon tous les films de genre français auraient fait des entrées, etc.
Tu peux peut-être pas vendre tous les films de genre français sur ce genre d'approche. Tous les films de genre français ne sont pas comme ça.
Ah, évidemment,
qu'ils soient bons ou mauvais, hein, c'est pas le problème, tu vois.
Bien sûr, il a eu toutes les voyants ont été au vert. Il y a eu la sélection à la quinzaine de Cannes, sauf erreur, ou c'est quinzaine ou semaine de la critique, je sais plus. Dans une des sélections cannoises, il y a le fait que c'était
toute cette
premier
haine.
Film réalisé par une femme. Il y a eu plein effectivement de dossiers.
Voilà. Ça, c'est le problème de la conjonction dont tu parles, c'est un truc qui est purement contextuel. Le fait que ce soit un Cronenberg-like, donc qui arrive déjà avec 40 ans de retard, hein, dans l'absolu, pour le coup, Cronenberg, c'était des films d'exploitation, là ça n'en est pas un, clairement pas, c'est un film d'auteur, donc
c'est un film d'exploitation pour les salons, quoi.
Voilà, et le truc
c'est de l'exploitation,
voilà. Tu sais, c'est la même chose que tu parlais du Pacte des Loups. Gans, à l'époque où ils ont vendu le Pacte des Loups, l'ont énormément vendu sur lui, pas sur les stars qu'il y avait dans le film. Ils l'ont vendu sur Gans parce que c'est le cinéphile à la Tarantino, c'est le mec comme ça, et c'était le truc qui a fait venir les gens, je pense vraiment, parce que en gros, c'est vous allez voir un film 5
j'y suis allé parce qu'il y avait des loups, hein.
Eh ben, t'as dû être déçu.
Mais j'étais petit. Ah ouais, peut-être. Ouais.
Donc voilà.
Et Vincent Cassel qui fait du lasso avec des os.
Le sujet n'est pas le Pacte des Loups. Mais
c'est bien dommage.
Le truc, c'est quoi là, c'est aussi ça le truc. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans Elle avec des interviews. T'as vu des autres réalisateurs de films d'horreur? Pascal Laugier, il est pas dans Elle. Donc le truc, c'est que bah oui, en fait, effectivement, il y a un truc qui est savamment orchestré autour de la personnalité de la réalisatrice
et de sa productrice aussi.
De sa productrice qui est voilà. Et le truc que personne ne nomme à chaque fois, j'ai l'impression que personne
Julie
ne veut
Gaillet,
dire.
Voilà.
Et pour moi, en fait, l'aboutissement qu'il soit au César,
c'est le cabinet noir, c'est orchestré. C'est orchestré depuis l'Élysée, oui monsieur.
le fait qu'il se retrouve au César, c'est la démonstration pour moi-même que le film est complètement inoffensif. Oui. C'est aussi ça le truc, c'est-à-dire que
quand je parlais de la cannibalisation, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est la stérilisation même plutôt, je devrais dire, du genre.
Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au final, c'est quoi ? Il y a une cuisse qui se fait bouffer, un doigt qui se fait sucer.
C'est vraiment. Moi, je comprends pas comment les gens ont pu faire pour faire des malaises, personnellement, mais nous avons des cultures différentes.
Le truc, en tout cas, c'est que il y a une fascination, et ça, je parle de manière générale, en fait, à l'idée de mettre en avant une personnalité qui un petit peu contradictoire, en fait, en tout cas un petit peu différente, parce qu'elle est là, la différence de grave, on va dire, elle est dans le fait que ce soit une réalisatrice qui est plutôt une jolie femme en plus, etc., qui est plutôt, enfin, qui c'est pas une, enfin voilà, donc en gros la mettre en avant et dire regardez, elle fait des films d'horreur, oh là là, tu vois, c'est d'un seul coup, c'est de dire il y a une différence, c'est autre chose quand même, on n'est pas chez les gros geeks boutonneux qui font des films qui se réclament de massacres à tronçonneuses, quoi. Donc le truc, c'est que
le problème il est là pour moi en fait, il est dans cette est-ce qu'elle est honnête vis-à-vis de ce qu'elle raconte, moi j'ai du mal à y croire, pour moi, quand je regarde ce film-là, j'ai l'impression de voir un gros film de bourgeois, quoi, qui s'encanaille un petit peu, quoi. Mm-hmm. Donc, qu'elle draine en fait ce public derrière elle, en tout cas ce public critique derrière elle, ça ne m'étonne absolument pas. Et voilà. Et le fait que ça soit nommé au César, le fait que ça soit nommé au César, c'est pour moi, à mon avis, c'est un pet dans l'eau. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça ne même qu'elle est le César ou pas. Hein. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est en gros, ça arrivera une fois tous les. Arnaud parlait du Seigneur des Anneaux avec les Oscars. Déjà, les Seigneurs des Anneaux, il a fallu quand même trois films. Ils sont arrivés au troisième film pour lui filer l'Oscar du meilleur film. Et tous les films, on va dire entre guillemets geek, si on doit tous les mettre dans le même panier, allons-y, qui sont passés depuis aux Oscars, et ils sont fait chou blanc. Oui. Et là, cette année, tu te retrouves avec Del Toro aux Oscars, ce qui est bon, il a 13 Oscars, c'est faramineux, c'est formidable.
C'est son film, ouais, je crois que c'est le titre du film.
et donc là, on va voir. Mais moi j'ai du mal à croire en fait que les 13 nominations aux Oscars se
concrétise en 13 Oscars.
Voilà, ouais. Parce que c'est pas Titanic, c'est pas Cameron qui arrive et qui d'un seul coup en fait fait Titanic, qui est un film quand même qui est beaucoup plus
aquatique, ceci dit aussi.
Oui, mais respectable entre guillemets qu'Aliens ou Terminator 2. Oui, oui.
Plus famille quoi, plus grand public quoi.
Plus Oscar. Oui. Voilà. Et du coup c'est pas la même chose.
D'Avatar.
Pour le coup, c'est un autre sujet. On va pas commencer à parler d'Avatar, s'il vous plaît. Non.
Voilà. Donc le truc, c'est que pour moi, en fait, le c'est vrai qu'on a choisi ce sujet-là parce que effectivement, il y a un aspect un petit peu, événementiel à l'idée de voir un film d'horreur. Maintenant, pour moi, le problème, c'est que la question se pose vraiment, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur ?
Voilà. On revient au fond de la question.
Après, des scènes croquignolesques. Si tant est que les mecs qui font la cérémonie, qui écrivent la cérémonie, qui font les sketchs. Peut-être que ça va nous donner des sketchs un peu gore, tu vois. Je sais même pas qui présente la cérémonie cette année sur Canal.
Manu Payet.
Mais ça aurait pu.
Après, objectivement, vous avez vraiment l'impression que quand vous regardez les scènes entre guillemets gore de je mets les guillemets vraiment parce que c'est vraiment du niveau de je sais pas moi d'une comédie. On avait vu des trucs comme ça à CJS, là, des comédies romantiques avec des zombies ou des conneries comme ça. C'est de ce niveau-là, hein, le niveau de gore.
Oui, c'est à peu près du niveau de la série Netflix avec Drew Barrymore qui bouffe des gens là. C'est à peu près ce niveau-là.
C'est ce genre de conneries.
Qui est nul,
on les a vus dans les films de Claude Chabrol, ces trucs-là. Enfin, je veux dire. Des trucs un peu gorasses comme ça, c'est pas comme si c'était nouveau non plus en France, quoi.
Oui, Julien. Tu parlais du fait que ça, le cinéma, disons à César, cannibalise en fait le genre. C'est plutôt l'inverse. Oui. Et ce qui est intéressant en fait dans le fait qu'il soit nommé, c'est que en fait c'est un révélateur.
Tu trouves que c'est le genre qui cannibalise les Césars, donc.
Non, c'est juste que c'est un révélateur, c'est-à-dire que c'est un film qui a dû se parer en fait de tout un tas d'oripeaux et de faire aussi beaucoup de sacrifices pour pouvoir rentrer en fait dans un certain moule. Et le fait aujourd'hui, pour moi, si tu veux, c'est assez marrant parce que je les vois tous beaucoup se féliciter de ça et tout, mais il y a quelque chose de louche en fait là-dedans. C'est-à-dire que si Grave était le digne héritier de Cronenberg, parce que je crois qu'elle se réclame beaucoup de Cronenberg, si mes souvenirs sont bons, jamais de la vie, il aurait été nominé au César. C'est impossible.
Non, mais...
Parce que ce qui a fait la possibilité de ce qui a fait la force en fait de Cronenberg, c'est que ce soit un vrai cinéma subversif qui
nommé
par. Voilà. Que ce soit c'était subversif, c'était underground,
et puis du cinéma d'exploitation,
et que ça te bouscule en fait dans ta chair. Ouais. Le fait que le film soit admis comme ça dans Julien. Le truc, ça montre bien que c'est un film qui finalement est totalement une
Julien, surtout du cinéma d'exploitation à ses débuts, Cronenberg. Ouais. Ça, il faut pas l'oublier. Il en a chié, Cronenberg, à ses départs, et ça se voit dans le film, quoi. Ça se voit sur le film. Elle en a pas chié,
mais surtout,
c'est du film gore d'une petite fille avec une cuillère d'argent dans la bouche, ce truc. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec les premiers films de
Sofia Coppola.
Et l'autre truc, c'est que si on doit citer Cronenberg, il faut quand même dire que donc il y a 40 ans qui sont passés, 40 ans d'analyse dans les putains de cahiers du cinéma. Ça fait 20 ans maintenant que Crash a fait la couve, hein, donc ça va, il faut arrêter de faire comme si d'un seul coup Cronenberg était encore le mec qui se faisait pas produire ou quoi. En plus, bon, son cinéma c'est devenu ce que c'est devenu, mais le truc c'est que avant ça, c'est un type qui a été suranalysé, donc c'est facile en fait d'arriver avec toute cette digestion, d'écrire sa petite crotte sur sa page. âge là et faire ce film quoi.
Alors moi mon idée c'était plus que à partir du moment où on se réclame de Cronenberg, pour être le Cronenberg d'aujourd'hui, ce qui est ouais. un truc complètement différent,
ce qui donc elle ne serait pas Cronenberg.
En l'occurrence ouais. elle ne l'est pas, enfin c'est non, juste pas possible quoi.
C'est des réalisateurs qui sont uniques, donc à un moment donné
voilà, donc paradoxalement pour moi c'est plus un aveu d'échec qu'autre chose. Et après est-ce que ça va faire du bien au genre ou pas, je pense qu'en fait ça va rien faire,
ça va rien changer,
ça va peut-être produire,
on en revient à la théorie du pet dans l'eau.
Non mais c'est ça, c'est-à-dire que ça va peut-être produire et pousser à produire 2-3 trucs un peu sur le même moule. Moi j'ai l'impression que Revenge là, qui sort bientôt est un peu vendu sur le même genre de choses. J'ai l'impression hein, je ça, peux me tromper
c'est parce que c'est pareil, c'est parce que c'est, en fait d'un seul coup tu te retrouves avec un rape Revenge qui est réalisé par une
par
femme,
une femme oui,
donc
sûr.
D'un seul coup
mais c'est très basique
ça,
en plus hein.
Mais ça valide l'idée que le film est plus intéressant, mais le problème en fait c'est que quand tu regardes le film moi je l'ai vu, c'est la même littéralement c'est un rape revenge, que ce soit réalisé par une femme ou par un homme, ça n'a littéralement aucune incidence en fait quand tu regardes le truc.
C'est un film qui ne fait pas avancer le schmublik en tout cas de cette problématique du genre en France.
Mais pour revenir quand même à l'élargissement qui était induit dans le sujet original, moi je pense que
merci de le rappeler.
Non mais ce qu'on a appelé donc la cannibalisation là du cinéma de genre
avec un trait d'esprit assez vif.
Voilà, je te le concède.
Merci.
Permets-toi de te citer quoi.
Je vous permets de me citer.
Voilà. Et donc à propos de ça spécifiquement, moi c'est là où je suis pas trop d'accord sur le fait de parler de paix dans l'eau. Je pense que ça va continuer et je pense que ça va aller en s'accroissant. Je veux dire, là déjà on a déjà depuis quelques années des films de genre comme ça, on a des séries télé qui font des succès. Alors il faut voir dans quelles conditions. Moi je parlais tout à l'heure des Revenants, mais les Revenants c'est pareil. Moi j'ai regardé jusqu'au bout, mais ça se voyait comme le nez au milieu du visage que les mecs ne savaient pas où ils allaient. Et le résultat c'est quoi? C'est qu'on a une deuxième saison, 3 ans après, que personne ne regarde.
Oui.
Parce que les gens, finalement, tout s'est dilué, tout le monde s'en foutait, et les auteurs les premiers, je pense. Donc le truc, je pense que c'est, et pourtant, malgré ça, on continue à avoir des séries, des films comme ça qui arrivent. Maintenant, les films sont nominés au César.
Nommé.
Ils représentent ils représentent le cinéma de genre à l'étranger.
Bordel.
Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, la pub de Grave, elle était basée là-dessus. Il y avait en gros sur l'affiche la phrase de Shyamalan qui avait pété une durite sur le film.
Hey.
Voilà. Donc il faut bien se mettre dans la tête que de plus en plus ça va être ça notre cinéma de genre. Dans les années 2000 on a raté le coche et souvent pour des raisons de fermeture culturelle quoi. Mm-hmm. On a raté l'espoir effectivement qu'annonçait le Pacte des Loups avec un cinéma de genre populaire comme on savait le faire avant. Et ben là maintenant on va, pour la peine on va voir ça quoi. On va voir ce cinéma de genre pour les salonards du dimanche quoi, et puis voilà.
Ok, on va s'arrêter là sur
et si
sur
tout
grave.
Était, tout ça, oui, tout ça n'est pas si grave.
Non, ah oh, c'est beau, c'est beau. Voilà, oh, c'est bientôt la Saint-Valentin, chouchou.
Hervo, je vais t'attraper à la sortie. Là.
Mais c'est comme tous les jeunes. Et donc, avant de continuer, on va prendre quelques questions de nos amis qui nous suivent en direct sur Facebook et YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions. Allez-y, envoyez questions sur notre sujet. N'est-ce pas de la récupération, nous demande Jean-Baptiste, de la récupération afin d'arrêter de jalouser les Goya, leur acceptation à juste titre du cinéma de genre.
Alors moi, à mon avis, les Français, ils savent même pas ce que c'est les Goya.
Ouais, c'est possible.
Alors les gens des Césars, ils savent absolument pas ce que c'est. S'ils se posaient la question,
Français, ils pensent à Chantal Goya.
C'est ça. C'est un film d'horreur différent.
En fait. Et je vois pas trop comment tu peux récupérer les Goya, qui quand même à la base nomme.
Hein, voilà. Tout le monde marche sur des œufs. Ouais,
nomme des films comme L'Orphelinat, tu vois, ce qui est quand même littéralement rien à voir avec des grosses flûtes comme Grave, quoi. Donc le truc, c'est que je veux dire, eux, ça fait. Le truc, c'est une question aussi.
Rappelons que pendant 2-3 ans, ils ont eu comme président de l'Académie des Goya Alex de la Iglesia.
Oui, oui.
C'est quand même autre chose qu'à l'intervient le producteur
Alex,
des visiteurs, quoi.
Alex
excusez-moi.
De la Iglesia. Ok. Très bien. Un avis sur Dans la brume, film de genre français avec Romain Duris à venir.
Ah ben ça, voilà.
On ne l'a pas encore vu.
Il y a la bande annonce qui est tombée l'autre jour. Et on sait que le scénariste
Guillaume
Le Mans, qui fait ses débuts de producteur sur ce film, est quelqu'un qui a une véritable ambition de cinéma de genre populaire français. Alors évidemment, le problème,
c'est une ambition d'ailleurs industrielle en fait.
Oui,
c'est-à-dire
voilà.
que c'est aussi pour ça qu'il essaye de se positionner, de voir comment dans le marché français on peut justement créer ce type de film.
Voilà. D'accord. Alors le problème,
donc, plutôt pense... une attente positive plutôt vis-à-vis.
Ah ouais, non, mais clairement, la bande annonce est vraiment encourageante.
Et encore, raconte quelque chose surtout. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que quand tu regardes une bande annonce comme celle de Dans la brume, tu te dis ah il y a une histoire. Donc en fait, on nous a mis en place le contexte, il y a des enjeux, on les a compris, il faut sauver cette petite fille, Paris est sous la brume, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Et en fait, la bande-annonce est suffisamment bien faite pour s'arrêter là et vous dire voilà, c'est ça le contexte,
c'est
ça le truc,
film.
Et on y va. Et le truc, c'est que Grave, par exemple, hein, pour prendre cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, tu vois, au hasard, qu'est-ce qui ça te vend en fait ? Qu'est-ce que ça te vend ? Je veux dire, quand tu regardes une bande-annonce comme celle de Grave, tu vois quoi ? Tu vois une gamine de 17 ans en train de bouffer le doigt de sa sœur, quoi. Donc c'est un truc de personnage, quoi.
Moi, j'aimerais juste préciser un petit truc.
Attends, pas tout le monde en même temps.
Non, mais vas-y, Alex.
C'est juste pour préciser que Dans la brume, effectivement, c'est une production française, mais c'est coproduit avec le Canada, puisque c'est réalisé. Je
ne
veux pas dire du mal, je ne vais pas dire de son nom, mais c'était le réalisateur du film Saint-Cyr, n'est-ce pas ? C'est un réalisateur québécois.
Arrête.
J'arrête. C'est un réalisateur québécois qui signe là son premier film en France, et c'est coproduit par une société canadienne. Donc, du coup. Moi, je suis à fond pour. Hein. Je trouve que c'est très bien que les pays francophones s'unissent comme ça. On a déjà des productions franco-belges depuis des années. Fabrice Duvel vient tourner en France, etc. Je trouve ça hyper encourageant qu'on puisse avoir ce pont-là Québec-France. J'ai un peu peur quand même du résultat parce que, voilà, même si le réalisateur en question a déjà travaillé en France, notamment, je crois, sur la série Versailles, me semble-t-il, sauf erreur pour Canal+. Mmh. Donc, je pense pas qu'il va pas y avoir de soucis d'acclimatation culturelle avec les équipes de tournage, les intermittents, etc., etc. Mais bref, je faut pas imaginer que c'est un film qui a été fait dans son coin par des Frenchies. C'est un film qui, voilà, c'est une coprode internationale avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter.
Après, il n'en est pas moins que le comme je disais, le scénariste producteur qui est derrière ça, il vient de créer une boîte, Esprit Frappeur, je crois que ça s'appelle, et qu'il est en train de développer plein de projets. Il a annoncé sur plein de trucs, des séries, des films. Et il y a chez ce gars-là une véritable ambition pour ce que peut être le cinéma de genre populaire français.
On est en février, il a déjà 3 films annoncés. Sur le début de l'année 2018, il a quand même un film de zombies, un film d'action. Ouais. Bon, mais bon, on verra. Tu vois, mais le truc, c'est qu'il a un film de zombies, un film d'action avec les motos qui étaient burn-out, et là, un film fantastique. Ça va, quoi. Tu vois,
je voulais juste préciser un truc, justement.
Non,
parce que
moi, je vais lui fermer sa gueule à Herbeau. Hein.
Non, attends. Parce que Alex, justement, il disait on verra ce que ça donnera. Effectivement, on verra ce que ça donnera. Mais moi, ce que j'aimerais dire simplement, c'est que il ne faut pas se tromper d'interprétation et penser que les amateurs de cinéma de genre qu'on est sont dans leur précaré, machin. Moi, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas une question de qualité des films, en fait. Quoi.
Qualité.
Ouais, qualité et quoi.
Ah oui,
c'est pas une question d'appréciation artistique en fait quoi. C'est une question de positionnement des films et que il y a une manière de se positionner pour avoir des ambitions pour le cinéma de genre. Et c'est pas en faisant des trucs comme Grave qu'on y arrivera à mon sens. Mais voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est parce que
c'est pas ça que tu voulais dire.
Non mais ce que tu viens de citer Fabrice Duvels, y a des gens qui font du cinéma d'auteur de genre qui est formidable comme Duvels justement. Ce sont des gens très talentueux. Des vrais cinéastes. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Quoi. Encore une fois, le problème que j'ai, c'est que même si j'adore les films de Duvels, j'aimerais voir, en plus des films de Duvels, un peu plus vraiment de films de genre populaire ambitieux. Voilà. Et moi, c'est à mon sens, on verra le résultat, je ne sais pas si ça sera réussi dans la brume, mais c'est l'ambition qu'ont les gens qui sont derrière Dans la brume.
Ça semble montrer Dans la brume. D'accord, très bien. Le Nos Ciné Club continue, c'est désormais une tradition. Avant notre prochain sujet, on joue. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Restons, si vous le voulez bien, sur le thème des Césars. On va voir si vous maîtrisez un peu le dossier. 5 questions, le plus rapide à répondre à gagner. On peut mettre le ticker, Quentin, le petit tic-tic-tic. Voilà, c'est celui-là. Oula, il y a tout qui part en même temps, là, c'est le bordel.
C'est le ticker qui va, quoi.
Ouais, ça, c'est pas le bon. Ok, c'est bon, on a le ticker, tout va bien. Première question, quelle année a eu lieu la première cérémonie des Césars ?
76.
Bien joué, Stéphane. Qui a remporté le tout premier César du meilleur film ?
C'était pas Le Vieux Fusil ?
Si, oh la vache, putain, Stéphane. Stéphane, il défonce tout. Qui fut le premier président des Césars ?
Pompidou.
Putain, il était mort en 76. En plus, c'était vraiment nul. C'était Giscard qui était président. Mais c'est pas lui le président des Césars.
C'était pas Charlie Chaplin ou un truc comme ça ?
Non. Un acteur français, monsieur.
Philippe Noiret ?
Non. Plus vieux.
Alain Delon.
Il a un peu grossi, Philippe Noiret. Hein.
C'était Jean Gabin, vous êtes nul. On continue sur l'histoire. Avant de s'appeler les Césars, quel nom portait la cérémonie récompensant les films français ?
Les Mollards.
C'était les films de genre. Non. Non, non. Pendant presque 20 ans, hein, jusqu'en 75, 55, 75. Les étoiles de cristal. D'accord. Enfin, cette année, une nouvelle récompense a été ajoutée au traditionnel César du meilleur acteur, du meilleur film, du meilleur réalisateur. Laquelle ?
César du public ?
Non ? Oui, le César du public qui sera remis à Danny Boone. Ça m'étonne pas que ce soit toi qui ait trouvé, Alexandre. Bravo à tous.
Mais il a sorti un film en 2017, Danny Boone ?
Red Dingue !
Red Dingue. Ah, c'est pas un gros succès Stéphane, du box-office français, Stéphane.
C'était ouais. Bravo à tous. Du box-office français, c'est putain.
On va continuer. Et ouais. On l'a vu un peu partout ces derniers jours, l'inarrêtable Tom Cruise qui entame la pré-promo de MI6, sixième épisode de Mission Impossible au cinéma. On verra ça au mois d'août. Normalement, l'essentiel de ce début de battage médiatique tourne autour des cascades. Tel un Jean-Paul Belmondo des temps nouveaux, l'ami Tom ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il assure lui-même les spectaculaires gadins que tente d'éviter son personnage d'Ethan Hunt. Ça lui a valu d'ailleurs un joli bobo à Londres l'été dernier, une fracture à la cheville en foirant en atterrissage. Résultat, tournage retardé mais buzz assuré, car le cinéma fait en vrai, pas avec ses saletés d'effets spéciaux numériques méchants, très méchants. Ça fait vendre, en tout cas ça fait causer. Qu'est-ce que ça cache, Julien ?
C'est vrai qu'on se retrouve avec beaucoup de promos en fait autour de ça en fait. Dernièrement, beaucoup de featurettes, etc. Après, pour le système de Tom Cruise en particulier, ça c'est pas neuf. Hein.
Non, c'est pas nouveau.
La malhonnêteté autour de ça n'est pas neuve non plus. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque de Mission Impossible 2, il y avait une vraie promo en fait autour de ça. Il y avait même eu un sketch avec Ben Stiller pour les MTV Movie Awards. Qui était très drôle et qui jouait justement là-dessus. Et parallèlement, et ça j'en parle en connaissance de cause, il y avait une interdiction formelle de parler des nombreux effets spéciaux numériques, puisqu'il y avait beaucoup déjà de masques numériques sur les doublures en fait qui doublaient Tom Cruise, et donc il y avait blackout total là-dessus et tu pouvais absolument pas en parler. Ce qui est intéressant en fait, je trouve aujourd'hui autour de ce retour en fait au physique et au dur, enfin en tout cas cette volonté de l'afficher dans la promotion, c'est pourquoi aujourd'hui. Et jusqu'à quel point c'est malhonnête. Je pense que déjà pourquoi il y a quelque chose de très pratique en fait, très pragmatique, c'est qu'aujourd'hui il y a une grosse partie des films, qu'on le veuille ou non, qui sont fabriqués sur ordinateur et tous. Et c'est pas très glamour à montrer. C'est plus rigolo de montrer une cascade en vrai. Et c'est plus rigolo de montrer des maquettes ou des monstres en mousse de latex. Et je pense aussi effectivement qu'il y a une défiance du public qui a besoin en fait de croire un peu plus à ce qu'on leur montre. Mais ce que je trouve assez absurde, c'est-à-dire que la cascade que Tom Cruise effectuait, je trouve, dans le précédent en fait Mission Impossible
avec l'avion,
qui est une cascade absolument ahurissante. Pour moi, dans le film terminé, elle est moins impressionnante que la sortie de Tom Cruise sur le TGV à la fin du premier Mission Impossible, qui pour le coup avait été tourné sur écran bleu et avec un décor entièrement numérique. Donc finalement, en fait, c'est-à-dire que c'est marrant en fait de voir Tom Cruise se viander la gueule et puis se casser la cheville et tout le monde il va tenter, c'est vrai que ça te fait mal, et puis c'est comme les trucs de Jackie Chan, mais il faut pas oublier, je pense, que c'est quand même une déviance, c'est-à-dire que il y a pas de cinéma en fait là-dedans, c'est-à-dire que le produit cinéma ne va pas bénéficier finalement de ça, et du coup je pense qu'on peut élargir un peu le débat en signalant que toute cette promo en fait qui est faite autour des effets numériques aujourd'hui est assez mensongère. C'est-à-dire qu'il y a eu une featurette qui est sortie sur le dernier Blade Runner sur les maquettes qui avaient été faites par Weta. Il se trouve que j'ai vu une conférence la semaine dernière au Paris Image Digital Summit en fait, qui réunit en fait tous les gens des effets numériques et tout. Et ce qu'on a découvert là, c'est on savait déjà que finalement la plupart des plans avaient été faits en numérique, etc. Mais alors ce qui est là où l'absurde devient, alors là on atteint un niveau incroyable, c'est qu'en fait ils ont recouvert intégralement en fait ces maquettes par une espèce de peau numérique pour améliorer les détails, parce que ça ne suffisait pas. Donc là, on se retrouve avec un truc complètement débile, en fait. Et sur le dernier Star Wars, il y a eu la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait toute une promo en fait, sur des créatures, des espèces de renards de cristal, sauf qu'on ne les voit qu'en numérique en fait, dans le film, qu'on ne voit jamais la maquette qui nous a été vendue en fait, auparavant. Voilà. Donc je peux...
C'est marrant parce Stéphane. Que le truc avec tu parles de Blade Runner, mais il y a là tu parles de Blade Runner 2049 évidemment, oui. Donc à l'époque le premier Blade Runner a été tourné en dur en fait. Et oui. le truc qui est intéressant c'est que quand ils ont ressorti le Final Cut il y a 10 ans, bah ils ont fait la même chose en fait, ils ont mis une espèce de couche numérique sur les décors en fait pour les rendre plus plus vivants quoi. Et ça t'as beaucoup plus de loupiotes, beaucoup plus de trucs qui sont des trucs numériques en fait dans le Final Cut hein. J'entends sur le Blu-ray. Et ce qui est marrant là-dedans c'est que personne ne relève ça en fait quand ça sort alors qu'on a les deux versions sur le même disque on va dire pour pouvoir faire la distinction quoi. Le truc avec Tom Cruise qui fait ses propres cascades, ce qui est assez rigolo c'est qu'il faut revenir sur les featurettes par exemple sur le DVD de Mission Impossible 2, faut revenir sur les featurettes comme celle de justement des cascades. Il y a notamment un truc sur l'œil, le couteau qui lui va pour lui tomber dans l'œil, et ça se voyait déjà à l'époque que le couteau était en numérique en fait, dans la featurette et du coup avec 17 ans de retard c'est encore plus flagrant quoi.
C'est encore plus dur.
Voilà, après moi je pense que le truc c'est que oui effectivement il y a quand même aussi une parce que j'imagine que ce que tu mets en avant là-dedans c'est la logique de, enfin c'est le dénigrement du travail
Je pense que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que je pense aussi que les spectateurs ont de toute façon encore aujourd'hui une habitude de spectateurs où on a l'impression qu'il faut en suer en fait sur un tournage pour que ça envahisse ton pognon quoi. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est difficile à vendre juste avec les mecs qui tapent derrière des ordinateurs, même si le savoir-faire, même si l'intelligence, même et surtout le cinéma en fait n'a rien à voir finalement avec
c'est,
ça.
C'est le principe de la fausse authenticité. C'est comme ces espèces de pubs qu'on veut que te présente comme des vieux établissements faits dans leur jus, alors qu'en fait c'est comme des Starbucks, c'est des trucs manufacturés à la chaîne, etc. Donc t'as une espèce de pseudo-patine à l'ancienne qui est ajoutée dessus, alors que le truc est semblable à 10 000 autres trucs standardisés qu'on voit ailleurs. Quoi. Moi, je pense que aussi, alors, je peux parler, c'est le moment où je me la pète un petit peu pour Mission Impossible 6, c'est que le hasard a voulu que je fasse un petit week-end à Londres il y a 2 semaines et que je me retrouve sur le tournage, aux alentours du tournage, le long de la Tamise, d'une scène que Cruise tournait, donc où il court. Il y a un hélicoptère qui le suit et il court comme un dératé sur 300 mètres. Mettre au-dessus d'une voie de chemin de fer.
Alors comment il
traverse
va,
la Tamise? Écoute, il allait très bien, bon pied, bon oeil. et ce qui était assez marrant, c'était que ça avait beau être un dimanche matin, donc l'activité londonienne était pour le moins ralentie, mais il y avait quand même des passants, etc. Et tout le monde y allait, moi le premier, sortir son smartphone pour immortaliser la bête, en train de faire son petit show avec l'hélicoptère qui lui colle au cul. Et je trouve qu'il y a un petit côté... c'est peut-être mon côté cynique qui parle là, mais le fait de vouloir à tout prix miser sur l'aspect dans les promotions, dans les featurettes, etc., et les interviews, sur l'aspect il fait ses cascades lui-même et tout, c'est que en l'occurrence quand elles sont réalisées ces cascades en ville, on peut en parler en plus en tant que gens qui habitent à Paris majoritairement, désolé pour Arnaud. Le tournage de Mission Impossible 6 a été tourné en partie à Paris, les rues ont été bloquées pendant des semaines et il y a évidemment plein de photos de cascades, de cruises en moto, etc., de vidéos volées qui ont circulé et qui alimentent cette bonne guerre, et c'est comme ça depuis des années, les blogs, les sites, les journaux People, etc., etc. Mais à l'ère de Twitter, de Facebook, etc., où à peine prise la photo, la vidéo est partagée en ligne, il y a presque, consciemment ou pas, une sorte de promotion en temps réel, un peu jeu du cirque, voilà. Oh, regardez le performeur, vous avez vu, c'est lui-même. Et c'est complètement jeu du cirque. Et en plus, le fait, l'émission Impossible étant une franchise que moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve que c'est une rare franchise qui a, même si j'aime pas trop le 2, je dois l'avouer, mais qui a quand même une bonne tenue sur l'intégralité de ses volets. Et comme elle a un énorme budget, elle est tournée aux quatre coins du monde, façon James Bond. Donc on va à Londres, on va à Paris, on va à Milan, on va à Vienne.
On va là où il y a des crédits d'impôt, en fait.
On va là où il y a des crédits d'impôt. On va là où il y a des crédits d'impôt et ou des beaux bâtiments à mettre dans le fond. Et du coup, il y a ce côté-là, voilà, comme je le disais, jeu du cirque, où les gens vont pouvoir documenter en quasi temps réel les exploits des acteurs principaux, enfin de l'acteur principal en l'occurrence, parce que c'est quand même un Tom Cruise show qui est producteur ne l'oublions pas, du film. Donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a ce, et puis surtout c'est,
mais il y a
c'est,
rien c'est, je pense que c'est parfaitement calculé,
bien sûr,
on l'a vu d'ailleurs avec les films Marvel et tout aussi, hein, où il y avait plein de photos volées, bien où tu sûr. Les voyais qui se marraient, etc. Ben oui. S'ils veulent cacher ce genre de truc, ils y arrivent,
ils peuvent, hein, pas le faire, bien sûr.
Après le truc, c'est vrai que ça tient sans doute à notre époque, hein, effectivement, ce truc, ce que tu disais, Twitter, Facebook, tout ça, et que les studios prennent ça en compte, hein, clairement. Mais après, par exemple, toi, Julien, quand tu parlais tout à l'heure de la cascade qu'il y avait en ouverture de l'avant-dernier, donc enfin du dernier qu'on a vu, quoi, Rogue Nation, Rogue Nation, c'est ça.
Ouais.
C'est un cas d'école, c'est, parce que là, évidemment, on pouvait pas. C'était en plein air, dans le ciel, au-dessus d'un aéroport, dans une zone désertique. Donc là, il y avait nettement moins de gens avec leur smartphone et trucs comme ça.
Mais il y avait des photos, ça avait fait la une aussi, tabloïd anglais.
Mais justement, mais le truc en fait que tu disais, que je voulais dire, c'est que en fait, moi, j'ai eu exactement la même impression, hein, quand je l'ai vu en salle. C'est très déceptif. Alors que tu as la pression quand tu vois les featurettes avant de voir le film. Et je pense que c'est là l'erreur que font les studios, c'est que de surcommuniquer avec ça. En fait, la scène, on l'avait quasiment vue en entier avant de la découvrir au cinéma. Ouais. Hein, oui. Parce qu'elle n'est pas très longue. Et je parle surtout des plans spectaculaires où il y a Tom Cruise, oui, à flanc d'avion. On avait tout vu. Donc c'est ça aussi. Parce qu'on se dit, bon, bah, c'est juste une scène d'ouverture. C'est même pas intégré dans la narration. Donc voilà, bon. Le truc qu'ils ont tendance à oublier, c'est, par exemple, Jackie Chan, les trucs à l'époque, on voyait le film, et à la fin, on avait cette récompense, ouais, où on voyait, en fait, que tout le fun et qu'on avait eu pendant le film, tout le divertissement profondément jouissif que c'est de regarder un film de Jackie Chan, on s'amuse, on rigole et tout, et ben derrière il y avait de la douleur, il y avait des os cassés, des trucs comme ça. Et ouais, moi je me rappelle quand on découvre
moment où il y a un plan dans, c'est dans le premier city, pas le
Armor,
ouais, le premier Armor,
le marin et mer de Chine,
où carrément il y a le plan où on se dit là il était à deux doigts de mourir, en fait,
quand il passe à travers les paravents, hein.
Ouais, puis qu'il a son arête en fait qui est rentrée dans, ouais, à un centimètre du cerveau.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Et donc, c'était des trucs qu'on voyait dans le générique de fin au cinéma ou alors en VHS. Quoi. Et les studios ne communiquaient pas avec ça avant. Donc, le problème, c'est que ça a tendance, effectivement, à... Quand on, alors, j'ai, encore une fois, je précise que j'ai bien conscience de la société dans laquelle on est à l'heure actuelle, qui a bien changé, des réseaux sociaux, tout ça. Mais le jeu que jouent les studios avec ça, je pense, est un jeu qui se retourne contre eux, au final, je pense. Ouais.
Mais c'est surtout qu'il y a quelque chose de dévié, en fait. C'est-à-dire que, dans l'absolu, personnellement, si j'aime Jackie Chan, c'est pas parce qu'il fait ses cascades lui-même, c'est pas parce qu'il se fait mal, c'est parce que ses scènes d'action sont d'une inventivité incroyable,
oui,
en fait.
C'est ça.
Et qu'il y a une vivacité là-dedans et une inventivité quand il prend une échelle et qu'il fait 15 000 actions différentes avec. C'est ça qui est génial, en fait.
C'est ça qui est fait.
Après, mais ça joue quand même, Julien.
Et après, ça s'est déplacé sur le fait de se dire, ah putain, en plus,
c'est du vrai.
Il fait ça pour de vrai, machin. Mais il faut pas que ça supplante l'autre,
oui,
parce que c'est une impasse, en fait. C'est pas intéressant. C'est-à-dire que c'est pas du cinéma, en fait, à ce moment-là. C'est un autre plaisir, mais qui n'est pas lié au cinéma.
Et pour Alexandre, en revenir aussi à ce côté, on parlait de Jackie Chan à l'instant, mais pour le côté, ils font leur propre cascade. Je pense qu'on arrive en ce moment, ces derniers jours, il y a des petites news qui font un petit peu parler sur Internet, c'est le côté détournement via l'utilisation de filtres numériques façon Snapchat ou Instagram, etc., où on colle la gueule d'acteurs.
Sur du porno.
Alors, il y a cette version-là qui est un peu plus glauque, on colle des actrices surtout, malheureusement, parce que c'est moins les mecs, c'est plutôt les actrices qui sont concernées par ça, où
ça
on colle leur tronche,
la tronche de porno, c'est les actrices,
la tronche de Gal Gadot,
ça dépend,
la tronche de Gal
Gadot,
par exemple, de Wonder Woman sur des boulas, et à l'inverse, pour côté un peu plus lol, j'ai vu aussi la version avec Nicolas Cage dans tous les films. Voilà, bon,
c'est bien ça.
Mais ce truc-là qui a été fait avec des moyens pas négligeables, mais pas non plus réservés à des compagnies type Lucasfilm avec des ordinateurs surpuissants, etc. C'est quand même fait par des gens, des particuliers chez eux, qui s'y connaissent bien en code, en graphisme, etc. Mais c'est quand même à la portée de gens qui, sans avoir des moyens considérables. Tout ça illustre bien de manière totalement claire et limpide que ce qu'on connaît depuis des années, via l'utilisation de masques numériques sur les cascades ou dans les films de Fincher avec quand il dédouble un acteur, il prend un seul acteur pour leur faire jouer des jumeaux dans ce social network, etc. Maintenant, de plus en plus, les gens vont être de moins en moins dupes et vont comprendre que effectivement, sans que ce soit ça leur pète à la gueule avec des explosions, etc., les effets spéciaux permettent de faire, c'est ce qui est leur rôle premier, hein, illusion, et de tromper réellement le spectateur.
Il y a une approche schizophrène là-dedans pour moi, en fait, dans la façon dont les spectateurs perçoivent ce truc, parce que justement, en fait, le problème, c'est qu'on a tous maintenant, enfin, si tu veux, et tu le vois partout, en fait, sur Instagram, sur ce que tu veux, etc., les filtres Snapchat avec tu te fais une tronche de renard ou je sais pas quoi, il y a un truc que tu pouvais juste pas faire il y a 10 ans, tout simplement, en fait. Et le truc, c'est qu'on vit une véritable révolution digitale, en fait, qui touche absolument tous les touche absolument tous les secteurs, en fait. C'est-à-dire, c'est pas que une question de réseaux sociaux, c'est vraiment une question de tout ce qu'on peut faire, quoi. Et effectivement, le débat ici, c'est de se demander pourquoi les gens recherchent impérativement, absolument, à avoir la sensation que tout ça a été fait en vrai. Et moi, je rejoins le problème, en fait. Alors, quand on parle de Tom Cruise et Jackie Chan, il y a un vrai problème, et éventuellement Belmondo maintenant, même s'il ne tourne plus, il y a un problème, c'est qu'en fait c'est basé sur une question de réputation. C'est-à-dire que on se demande pas de savoir si Van Damme ou Schwarzenegger, ils ont fait leur cascade, parce qu'on s'en fout, en fait. C'est pas quelque chose qui a été fait. Il se trouve que Tom Cruise, il se trouve que Jackie Chan, il se trouve que Belmondo les faisait, en fait. Donc du coup, ils le font. Et voilà, quand d'un seul coup Jackie Chan fait le troisième, justement Armor of God, et qu'il y a du numérique partout, bah oui, tu peux être déçu, même si tu sais qu'il a 60 ans et que bon, à un moment donné, il va falloir qu'il s'arrête aussi, quoi. À l'époque, une chance sur deux, là, le revival. Avec Delon et Belmondo, en fait, c'était basé aussi sur Belmondo fait ses cascades, il s'accroche à son hélico, etc., etc. Et le truc, c'est que, enfin voilà, il y a cette recherche là, mais effectivement, il y a un moment donné, j'ai l'impression l'idée que les spectateurs, en tout cas les gens au quotidien, en fait, n'ont pas conscience de l'outil qu'ils ont entre les mains. C'est-à-dire, je sors un petit peu du cinéma, mais c'est un peu vendre par exemple l'iPhone X, tu vois, sur le fait que tu puisses faire en fait de la performance capture en faisant du caca, tu vois, un caca smiley, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment où tu te dis, t'as un outil qui est absolument incroyable, ultra performant, qui fait beaucoup plus que ça. Mais c'est vendu pour ça.
L'infini et, à la portée des caniches.
Voilà, et le truc, je suis pas en train de
cette phrase
là, je suis pas en train de En fait, il y a un manque d'éducation vis-à-vis de ça qui est étonnant, en fait, je trouve. C'est ça que je trouve. Il y a un manque d'éducation, en fait, qui est étonnant parce que en fait, la discussion aussi qu'on a là, c'est on va arriver inéluctablement, et ça, je pense que je peux te laisser même la parole là-dessus, on va arriver inéluctablement à l'idée que tout le cinéma va être numérique. À un moment donné,
ça m'offre une transition magnifique pour une question qu'on nous pose, une question d'auditeur qui va nous permettre sur laquelle Julien va répondre et qui va nous permettre de conclure pour passer à autre chose. Et c'est Sublime Tricaz qui nous demande à propos d'artifice assumé, on peut parler de cette arnaque de Unsane, la bande-annonce du nouveau Soderbergh tourné justement, soi-disant, avec un iPhone. Voilà.
Pourquoi pas ? Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça dans l'absolu. Je vois pas en quoi c'est forcément une arnaque. Je veux dire, tu il faut que t'adaptes.
Là, c'est pas moi qui dis arnaque.
Ton ambition de. Oui, non, mais je réponds à notre auditeur. Mais il faut que t'adaptes les ambitions, enfin ton projet au format et vice versa.
C'est Soderbergh.
Voilà, mais là, si je suis pur et que j'aborde le truc et tout, dans l'absolu. Moi, j'ai rien contre, en fait.
Oui. En fait, moi, ce que j'ai trouvé drôle avec cette bande-annonce de Unsane, là, c'est que je l'ai regardé, et en fait, ça a l'air pourri, quoi. Ça a vraiment l'air pourri. Je vois pas ce que je gagne, moi, personnellement, à voir un film tourné en iPhone. Mais si ce n'est que, là où je me suis posé quand même une question, c'est que quand tu vas. T'as un peu ça en France, mais t'as surtout ça aux États-Unis, quand tu vas à Los Angeles ou des trucs comme ça, tu vois des billboards énormes avec une mention shootée à l'iPhone 5, tu vois. Et là, toi, tu utilises ton téléphone et tu fais pas ça avec ça, tu vois. Donc, le truc, si tu veux, c'est que d'un seul coup, tu vois, Soderbergh, qui est quand même, n'empêche, un réalisateur qui est en activité depuis 30 ans, il tourne son film comme ça et ça fait pas ça non plus, si tu veux. Ouais. Donc, à un moment donné, en fait.
C'est pas le premier, je crois que c'est Zack Snyder. Hein, il y avait déjà eu un film tourné à l'iPhone il y a deux ans, comme ça.
C'est Batman et Superman.
Et Zack Snyder est en train d'en faire un où il l'a fini aussi. Hein, donc c'est pas le premier à se poser cette question-là.
Les premières personnes qui se posent ces questions-là, c'est les personnes qui ont tourné en DV à l'époque.
Exactement.
Comment elle s'appelle, Colleen Serrault, quand elle faisait la suite de 3 hommes et un couffin. Non, mais voilà, c'est la même même logique à la con, c'est on va pas se faire chier, on peut tourner, on peut y aller. Je crois qu'il y a, il y a Rivette qui en a fait un comme ça aussi. Enfin bref, le problème en fait, c'est quand tu regardes Unsane, la bande-annonce, t'as l'impression que c'est shooté au téléphone, mais je pense que c'est fait exprès. Ouais. Je pense qu'ils dévaluent en fait le truc pour vendre l'idée que ça a été tourné, que attention, c'est concept. Ouais. Et ça c'est du Soderbergh tout craché. C'est l'arnaque, elle est là en fait.
Toute la problématique du truc, c'est que si c'est une solution de facilité, c'est lamentable. Si ça participe à un vrai projet artistique, pourquoi
c'est
pas.
Park Chan-wook qui avait tourné avec l'iPhone 4. Non, il n'avait pas fait un moyen métrage, Park Chan-wook, avec l'iPhone 4.
Possible.
Je l'assure. Mmh. Je vous assure que oui, mais je ne l'ai pas vu parce que au moins 40 minutes, j'avais autre chose à voir.
Arnaud, tu voulais.
Ouais, non, je voulais revenir au fait que le ce qui est intéressant en fait dans ce sujet, c'est le rapport que les gens ont aux images et à leur véracité, quoi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et ce qui est curieux, c'est que dans l'histoire du cinéma, on peut dire qu'avant, il y avait une certaine croyance presque béate dans les images. Enfin, les gens suspendaient totalement leur incrédulité et croyaient ce qu'ils voyaient. Maintenant, c'est l'inverse. Ce que disait Alex tout à l'heure, il y a une suspicion quoi, vis-à-vis des images de synthèse, tout ça, des trucs comme ça. Mais en fait, le brouillage, je pense, et les idées reçues que se font les gens n'ont pas changé. C'est toujours pareil. C'est-à-dire, pour illustrer ça, il y a eu des trucs frappants ces dernières années. Bon, là, ça date un peu, mais par exemple, il y avait des gens qui criaient à l'époque des Spider-Man de Sam Raimi sur les plans sur certains plans à certains moments du film en images de synthèse et qui ne voyaient pas, par exemple, qui ne savaient pas que la ville entière était en images de synthèse. Quoi. Oui. Et à contrario, plus récemment, je ne sais pas combien de fois j'ai lu sur Internet des déclarations sur les fantômes de Crimson Peak de Guillermo del Toro, où les gens disaient c'est fantômes en image de synthèse, ça désincarne totalement le truc, alors que c'était des fantômes bon, certes rehaussés avec les volutes ectoplasmiques étaient en image de synthèse, mais les corps qu'on voyait étaient les corps de Javier Botté et de Doug Jones, les deux comédiens de del Toro, qui sont des comédiens aux physiques assez étranges, quoi. Mais c'était leur propre corps. Donc voilà, il y a malgré l'éducation et l'habitude des gens aux images numériques, il y a toujours encore des grosses conneries qui sont dites parce que les gens n'ont peut-être pas encore apprivoisé l'image totalement. Après, je sais pas, Steph, il avait
commencé. Danny Boone, c'est sa vraie tête. je l'ai appris récemment, mais ça vraiment, c'est sa vraie tête. Hein.
Pourquoi tu prends l'accent belge?
Je ne sais pas.
Ah, c'est terrible. C'est terrible. Allez, c'est terrible. On est obligé de passer à autre chose. Voilà. Mais avant notre prochain sujet, évidemment, il y a encore un petit jeu. Et comme je sais que vous adorez ça, ce sera un jeu musical. Oui, oui, oui. Si on parlait des Césars tout à l'heure, il y a aussi les Oscars qui se profilent. Ce bon vieux John Williams, toujours vert, est en lice pour la 51e fois de sa carrière, quand même. Alors pour fêter ça, on va tester vos connaissances exactement en Williamserie. C'est assez facile, c'est toujours
Rafik.
Rafik n'est pas là, c'est triste. Hein. Mais sinon, il aurait été gagné, donc en même temps, c'était même pas drôle.
On pouvait aller fumer une clope. Hein.
Voilà, c'est ça. Bon, comme toujours, le premier qui trouve a gagné, premier extrait.
1941.
Bravo Julien. Deuxième extrait.
C'est pas Minority Report.
Non. Plus vieux. C'est les sorcières d'Eastwick.
Oui, voilà. Bravo Julien. Troisième extrait.
C'est pas la guerre des mondes?
Non.
C'est JFK.
Bravo Stéphane, quatrième extrait.
C'est pas Fury?
Non.
Ça c'est Minority Report, non? C'est pas celui-là? Ah
ouais. Non, c'est plus vieux que ça. Mais...
C'est beaucoup plus vieux.
Ça fait penser à Histoire Fantastique, mais c'est pas du tout ça.
Non.
On est bien, écoutez.
C'est la Tour Infernale.
Ah,
c'est la Tour Infernale. Tower Inferno. Allez, cinquième et dernier extrait. Celui-là est un peu vache.
Ah,
dit harpiste.
T'es un génie.
Hein. Ouais, je sais pas.
Ah, attendez un peu. Attendez un peu. Laissez venir.
Je vais mettre Shazam là.
Non, tu mets pas Shazam. Il reste encore un peu de temps sur l'extrait, Quentin.
Ah bah c'est Fury ça.
Non, pas du tout. C'est les Dents de la Mer 2.
Ah putain,
c'est Jaws 2.
Non, incroyable ce score en plus.
Par le réalisateur de La Vengeance
c'est
du
vrai
Monde.
Voilà. Mais c'est un beau score. Ça fait la musique d'un film d'un réalisateur français.
Eh bah ben ouais, c'est un beau score quand même. Merci d'avoir joué, magnifique. Messieurs, surtout Julien à tout scorer. On attaque notre prochain sujet. On l'attend, deux pieds fermes, The Shape of Water, La Forme de l'eau, le dernier né de notre chouchou d'amour Guillermo del Toro sort à la fin du mois. On en reparlera évidemment dans nos ciné version classique en temps voulu. Réfrénez, chers amis, d'ailleurs si vous le voulez bien, vos ardeurs, on en garde pour l'émission qui lui sera consacrée s'il vous plaît. On va se concentrer sur ce qui se passe à la périphérie du film, pour savoir les récentes accusations de plagiat, notamment de la part de la famille de Paul Zindel, dramaturge aujourd'hui disparu, mais dont les héritiers accusent del Toro d'avoir pompé la pièce Let Me Hear You Whisper pour son film. Accusation démentie, mais ce genre d'affaire est assez récurrente d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table, Alexandre, tiens.
Alors, pour la pièce en elle-même, que je n'ai, on va pas se mentir, pas lu.
Non, bah moi non plus. Hein.
J'ai lu à peu près les similitudes qui avaient été notées. Je peux comprendre que des fans, parce qu'il faut savoir que c'est pas les ayants droit qui se sont rendus compte eux-mêmes des similitudes, ce sont des fans de la pièce.
Qui ont alerté les ayants droit.
Ce qu'on appelle des balances.
Dans
le milieu. Là,
grosses baltringues, comme
gros
on
genoux,
dit.
Hein. Mais ils ont signalé ça. Il y a des similitudes évidentes. Mais ça ne tient pas en fait, hein. Voilà, il y a des figures, des ficelles narratives qui ont été utilisées, des contextes qui sont similaires, mais il n'y a pas eu un clash, va pas y avoir de procès, c'est ce que je voulais dire, okay. Sauf erreur, parce que je pense que ça s'est réglé plus ou moins à l'amiable, mais on est sur un cas de figure où
il y a quand même eu un communiqué de Fox Searchlight,
hein. Voilà, où ils se sont fondus quand même d'un communiqué pour apaiser le truc, mais on est dans un cas de figure où voilà, il y a un film qui commence à prendre, je pense qu'il faut pas se leurrer, comme je le disais à l'instant, ce sont des fans de la pièce originale qui se sont manifestés auprès des héritiers de l'auteur pour dire qu'ils avaient repéré quelques points communs. Si le film n'avait pas eu cette unanimité critique, cet accueil enthousiaste et ces nominations, même si je pense que le cas de plagiat remonte un tout petit peu avant les nominations des Oscars.
Voilà, il n'empêche qu'il avait quand même eu l'Ours d'Or et tout ça.
Il avait déjà été remarqué à Berlin. Donc bon. Je pense que c'est aussi l'enthousiasme du film.
Venise, pardon. C'est moi qui dis n'importe quoi. Oui. C'est le Lion d'or.
Le Lion d'or.
Oh, les lions, les ours, on finit par s'y perdre.
Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que c'est l'enthousiasme autour du film qui a aussi un petit peu excité certaines personnes. Là où le cas le plus intéressant, c'est celui du court-métrage néerlandais, dont le titre est The Space Between Us, si je m'abuse.
Oui, c'est ça.
Un truc comme ça. Qui a un bon court métrage, enfin, je pense qu'on l'a tous vu autour de la table. C'est un film d'étudiant, donc vraiment un film d'école. J'ai pas exactement les tenants, les aboutissants, des conditions dans lesquelles il a été créé, mais je pense que c'est vraiment, voilà, avec assez de moyens, faut le dire. Et là, effectivement, pour avoir vu, j'ai vu la Forme de l'eau, hein, en Projo Presse, et après, il y a quelques semaines, j'ai vu là cet après-midi le court métrage en question, et c'est vrai que bon. Il y a des plans qui tout de suite évoquent le film de Del Toro.
C'est vrai que l'eau est bleue, quoi.
Et c'est vrai que l'eau est bleue.
Dans les deux films, l'eau est bleue.
Moi je dirais.
Non, mais dans le décor, un petit peu.
Il y a un ou deux plans, et notamment un plan large avec une fenêtre de l'aquarium en forme de porte. Qui se découpe et à travers laquelle on voit la silhouette en pied de la créature et la femme face à la fenêtre, à la vitre, qui est un plan qui est dans le Del Toro. Bon, il y en a un ou deux comme ça où tu dis oui, bon, voilà. Le problème, c'est que je pense que, alors, j'en ai pas la preuve formelle, mais je pense que ça doit pas être très compliqué de prouver que le scénario de Del Toro, parce que tout ça c'est des choses déposées et tout, a été écrit avant que le type sorte son court-métrage, parce que c'est un court-métrage qui est sorti en 2016. Moi je me rappelle début 2016 bon, excusez-moi, je vais me la péter un peu, mais avoir échangé des mails avec Del Toro où il me parlait du projet quoi, donc, et qui était déjà écrit quoi. Donc voilà, mais le truc c'est que ce qu'il faut signaler là-dedans, c'est que ce truc du court-métrage c'est venu avant l'histoire du dramaturge, quelques jours avant. Finalement, c'est retombé comme un soufflet. Je te remercie. J'ai cherché l'expression.
Une très bonne atmosphère.
Voilà, parce qu'en fait, c'était c'est un Suédois qui a fait ça, et je crois que c'est les autorités suèdes qui avaient produit le truc.
Néerlandais.
Ah, néerlandais, pardon. Autant pour moi. Et donc, qui ont démenti, qui ont dit non, mais bon, il y a pas de plagiat, quoi. Voilà. Bon, donc, et à partir du moment où c'est retombé. Un ou deux jours après, boum, il y avait le truc avec le dramaturge qui partait. Et là, tu te dis, mais c'est quoi le problème, quoi? Tu vois, c'est quand le truc avec le dramaturge va tomber, on va trouver autre chose.
Il y a Caro et Genet qui se préparent à voir Mont Blanc, qui ont passé quelques
coups
de fil à Del Toro.
Non, mais moi je m'attends à ce que d'ici les Oscars, on lui trouve un truc où il y a 10 ans, dans un dîner, il a fait un compliment à une nana sur sa robe, et allez, bim, c'est parti, balance ton porc et compagnie. Non, parce que...
Balance ton gordo.
non, mais c'est quand même hallucinant. Et moi... Alors, vous
allez c'est
dire,
le cabinet noir encore.
Vous allez me dire que c'est du complotisme. Bah, fais-moi Eric Brunet.
Bah, tu viens de parler de Eric Brunet, cela dit. Bon.
Non, mais le truc, c'est que ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble frappant à chaque fois, c'était le cas sur Avatar, c'était sur le cas déjà sur pas mal de films. Bon, il y a le cas Besson qui est un peu à part, mais à chaque fois, ça tombe sur des films de genre qui excèdent leur public habituel. Alors, soit en étant un énorme succès public, soit en étant un énorme succès critique, festivalier, tout ça, comme les La Forme de l'eau. C'est quand même étonnant, hein, 13 nominations pour un film de Del Toro, pour un film comme ça. Bon, voilà. Et ça, par contre, ça ne tombe jamais sur un cinéma un peu plus institutionnalisé, un peu plus oscarisable pour le coup. Moi, je me souviens, je cite souvent cet exemple, mais je me souviens avoir halluciné quand j'ai découvert, avoir aimé Accord et désaccord de Woody Allen en salle, le film avec Sean Penn sur le guitariste de jazz.
Bravo, Arnaud. Quand on sait ce qui lui arrive à Woody Allen.
Non, mais attends. Avoir aimé le film alors que d'habitude je n'aime pas du tout Woody Allen. Et puis quelques mois après, je découvre dans le courrier des lecteurs des Inrecuptibles. Je lisais les Inrecuptibles. J'étais étudiant à l'époque.
Je quitte cet établissement.
J'étais étudiant, j'avais des circonstances atténuantes. Donc,
un
courrier des lecteurs dans les Inrocs d'un gars qui dit voilà, alors c'est quand même étonnant parce que je vois personne en parler, mais c'est juste un remake quasiment plan par plan de La femme aux chimères de Michael Curtis. Et donc un remake totalement pas avoué quoi. Hein, et donc je me dis bon bah ça doit être enfin comme souvent ces accusations de plagiat. Je m'y attarde pas plus que ça. Et genre un an ou deux après, je tombe sur TCM sur La femme aux chimères de Curtis que je n'avais jamais vu avec Kirk Douglas, Young Man with Horns, un film magnifique. Et là j'hallucine parce que c'est le film, même l'idée. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un accord à désaccord des intervenants qui ont vraiment connu le personnage qui sont interviewés genre reportage face caméra pour dire voilà je les connais tous, c'est dans le Curtis. Il y a les trois personnages principaux sont exactement les mêmes, il y a des mouvements de caméra et des mouvements de caméra que tu n'oublies pas, genre à la fin Kirk Douglas qui brise de sa trompette par terre, parce que c'est un trompettiste, ça c'est Bixby Descartes en fait, qui brise sa trompette par terre, et puis t'as la caméra qui s'élève en mouvement de grue au-dessus de lui, qui le laisse par terre avec sa trompette fracassée. Le même truc avec Sean Penn et sa guitare, le même. Hein. Et ça, personne n'en a jamais parlé.
Pas s'ils n'ont pas vu les films.
Non, mais Michael Curtis, c'est quand même des classiques aux États-Unis.
Oui.
Je veux dire, le truc, moi, je suis désolé, mais allez-y, traitez-moi de complotiste. Mais, dès que ça touche du cinéma de genre populaire, des films de science-fiction, fantastiques, des trucs comme ça, là, tout de suite, il y a une sorte de facilité à cartonner les mecs. Alors que quand c'est du Woody Allen ou d'autres personnages beaucoup plus fréquentables que Guillermo del Toro, là, il n'y a pas de problème. Tout le monde met ça sous le tapis.
Je crois qu'Arnaud vient de démontrer montrer que Woody Allen est coupable.
Oui. Enfin, voilà. Je crois aussi.
Je crois que ah bah maintenant, peu. Quand Woody Allen va pomper quelqu'un, ça se sera. Il est très bon.
Il est excellent. Il est excellent, c'est Alexandre Arbo. C'est lui qui remplace Manu Payet l'année prochaine au César.
Ah oui, mais prenez-le pour les Césars, bordel de merde.
On va rigoler. Stéphane, vas-y, Stéphane.
Pour les Gérards.
Ramène un peu de sérieux dans cette émission.
Le truc qu'il faut aussi dire sur Del Toro, c'est que pour l'avoir vu, et on l'a vu avec Julien et avec Arnaud, comment dire, à l'époque, quand tu le croises dans les festivals, il est souvent sollicité en fait par des gens qui lui veulent lui donner genre leur bande démo, leur machin, etc., etc. Et c'est quelqu'un, c'est un producteur Del Toro, donc il a produit pas mal de personnes. Nous à l'époque, avant qu'ils fassent l'Orphelinat, nous avaient même présenté Bayona en fait. Je me rappelle à CJS. Et le truc en fait, c'est que dans ces cadres spécifiques, il refuse. Donc Internet n'était pas aussi développé, il n'y avait pas YouTube encore à l'époque, par exemple, mais il refuse littéralement en fait les bandes démos, ce genre de choses. En fait, il demande à ce que ça passe par son agent en fait, pour des raisons justement juridiques. Pour des raisons spécifiques, moi j'ai croisé des gens, je me suis fait pote avec des gens en Espagne dans les festivals avec qui je suis encore en communication, qui m'ont expliqué littéralement que chaque fois qu'ils avaient un court-métrage ou un truc comme ça, ils devaient passer, quand ils voulaient le montrer, eux ils étaient aussi en contact avec Del Toro, quand ils voulaient lui montrer, en fait il fallait que ça passe par des voies officielles. Vous avez un agent, l'agent envoie le truc, qui envoie l'agent à Del Toro qui lui fait passer. Donc bon.
Pour se protéger justement de ces accusations-là.
Voilà. Et il est quand même extrêmement précis. Alors quand à côté de ça, il est particulièrement généreux avec le fait de pouvoir utiliser son pouvoir pour produire des premiers films. Donc le truc, c'est que quand tu connais ce fonctionnement-là, effectivement, les accusations te paraissent complètement farfelues. Et après, il y a un autre truc, c'est qu'on parle quand même de Guillermo del Toro. C'est pas Arnaud cite Woody Allen, mais Woody Allen c'est aussi quelqu'un qui fait un film par an, donc au bout d'un moment on peut comprendre qu'il puisse être à sec aussi de comment dire, en termes de créativité quoi. Un type comme Del Toro qui a un esprit hyper imaginatif, qui s'inspire en fait de son propre vécu pour créer ses,
c'est un créateur de l'univers.
Voilà. Et la source, et là je vais pas faire une critique du film, mais la source de La Forme de l'eau, elle est très simple, c'est L'étrange créature du lac noir. Littéralement. Donc le truc, c'est que, et je pense que la source de, comment ça s'appelle, The Space Between Us, c'est ça aussi. Voilà. Donc ça me fait un peu, et là je déborde un peu du sujet, mais ça me fait un peu mal au cul quand les gens disent ouais, c'est du Jeunet, c'est Amélie Poulain, alors que t'as un type à côté qui a quand même démontré depuis 20 ans qu'il a un univers à lui. Voilà quoi. C'est Abbé Sapiens. Enfin voilà, à un moment donné, t'as envie de dire, mais c'est bon, enfin, il y a un bénéfice du doute quand même accordé quand on a vu le film. Que le film soit vendu au market comme Amélie Poulain, bon, ça c'est un autre problème quoi. Il se trouve que quand tu vois le film, pour moi j'y pense pas une seule seconde à Jeunet. Si j'avais pensé une seule seconde à Jeunet, je ne trouverais pas que c'est un chef d'œuvre. Voilà, donc
j'ai quand même pensé à Jeunet.
Et puis je vais juste, parce que bon,
parce que c'est trop facile avec toi Hervo, tout le temps la facilité Hervo.
Je vais juste
retourne voir Grave.
Juste préciser par rapport à ce que disait Steph sur Del Toro, parce que bon, c'est vrai qu'on le côtoie un peu depuis de nombreuses années maintenant.
On a compris que c'était votre copain, ça va.
Non mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, moi je me rappelle comme ça de plein d'anecdotes, il y a une véritable inquiétude de l'originalité chez lui. C'est-à-dire non seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à lui-même. C'est-à-dire pas se répéter. Tout ça. Mais moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque de l'Orphelinat, il m'avait dit, lui, il était producteur donc sur le truc, et on parle parce que c'est un feuilleton. À chaque fois que je le vois, je lui en parle de son projet d'adaptation des Montagnes Hallucinées.
Ah bah justement, on a une question là-dessus.
Voilà,
Jonathan qui demande si on aura l'espoir un jour de le voir.
Attends, alors je termine. Vas-y. Je lui dis parce que ça date d'il y a 10 ans. Hein, et je lui dis oui, alors les Montagnes Hallucinées, c'est ennuyeux. Et il me dit. Il me dit ouais, j'ai un problème, c'est que j'ai vu le film de mon ami la Franck Darabont quoi, j'ai vu le The Mist,
The Mist ouais,
voilà, et le final ça m'a bousillé, je l'ai appelé pour l'insulter direct après et tout quoi, et il m'a dit c'est à cause de ce connard, bon, entre guillemets hein, oui. Cabron la comédie quoi, oui. Je suis obligé de réécrire toute la moitié de mon script quoi. Donc c'est et pareil, quand je l'ai vu à Cannes l'an dernier, je lui ai parlé du film de Xavier Jeance qui est pas sorti en France là,
Cold Skin.
Qui met en scène une créature amphibienne, comme je sais qu'il aime ses films et tout, et tout de suite j'ai vu son regard se foncer et se dire oui non mais bon, il faut pas que je le voie parce que ça va me miner et tout.
Et moi, quand j'avais interviewé à l'époque d'Hellboy, il y avait la même logique, c'est-à-dire que ce qu'il faisait chier, c'est qu'il devait faire Hellboy en 98. Et du coup, il a vu tous les films de super-héros sortir en tout temps. C'est vrai, il a vu tous les films de super-héros sortir en tout temps. Il fait putain, fait chier. J'avais tous ces plans. En fait, tout ce que je vois dans Spider-Man, tout ce que je vois dans tous ces films-là, c'était prévu. En fait, je les avais déjà. En fait, ces plans-là. Et donc, c'est vrai, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ce que dit Arnaud.
Pour clore le débat et juste pour apporter une pièce au dossier, moi, j'ai interviewé Alexandre Desplat là pour La Forme de l'eau. Il parle du projet avec Desplat depuis The Guardians. Donc c'est encore plus que ce qui est cité Arnaud, et le script était déjà écrit à l'époque. Le truc de donner à son agent quand il y a des jeunes qui viennent vous proposer, c'est systématique en fait chez les gens qui ont du succès comme ça, parce que ils sont tous accusé régulièrement de plagiat. On s'est pas tout le temps rendu public comme là, avec La Forme de l'eau. Mais c'est quasi systématique. Je crois que c'est même, j'avais lu quelque part que c'était systématique sur tous les films de Spielberg, par exemple. À une époque, en tout cas, quoi. Donc c'est voilà, c'est la poule aux œufs d'or. Il y a un truc qui sort comme ça. Il y a tellement de projets et tout. Forcément, il va y en avoir un moment qui n'a pas réussi à se monter. Et on va trouver des concordances qui vont trouver. Le Cold Skin ne se serait pas monté. Xavier Jean ne serait pas quelqu'un de très honnête, etc. Il aurait pu lui aussi accuser sur certains points La Forme de l'eau de plagiat, etc. quoi. Et moi, je pense aussi que ça, paye. Ces grands cinéastes en fait de genre payent aussi avec ça. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois avec un mec comme Cameron. C'est comme ça que je le vois avec les Wachowski aussi. Ils payent aussi le fait qu'ils réussissent à capturer ce qui fait quelque chose qui vibre en fait dans l'inconscient collectif et populaire. Ils réussissent à capturer ça et à le catalyser aussi dans un film. Et pour moi, ça c'est la marque d'un grand cinéaste. Mais c'est aussi, ils le payent aussi du coup avec des choses comme ça. Ça reste quand même. Je pense que si La Forme de l'eau est aussi bien reçue, c'est qu'il y a quelque chose dans le film qui est dans l'air du temps. Il faut que ce film il arrive aujourd'hui aussi. Et c'est pas simplement aussi l'aura de Del Toro et tout. Il y a quelque chose aujourd'hui dans la culture mondiale qui appelle en fait La Forme de l'eau.
Et lui, il
l'a senti. En fait, c'est un peu ésotérique ce que je dis, mais je crois sincèrement que je pense que Matrix n'est pas sorti par hasard à la date où il est sorti. Et du coup, je pense que si Matrix a eu aussi son lot d'accusations de plagiat ou de copie, etc., c'est parce que les Wachos avaient comme ça catalogué tout un tas de choses qui étaient en train de se créer, de se former dans la culture de l'époque.
Après, il y a des accidents heureux aussi, pardon, excuse-moi, mais il y a des accidents heureux, c'est-à-dire que La Forme de l'eau, on l'a aussi parce que Pacific Rim 2 a été décalé, ça l'arrangeait plus, il y avait un laps de temps et il avait l'occasion de faire ce film-là, La Forme de l'eau, qu'il voulait faire ensuite, du coup, il l'a fait maintenant. Et donc, effectivement, comme disait Julien, ça tombe pile poil dans le Zeitgeist et ça tombe très bien aussi. Et juste pour finir un truc, on l'a pas cité tout à l'heure, mais alors qu'il n'est pas crédité sur l'affiche, en tout cas, et même peut-être pas dans le générique, en tout cas pas au début, mais Del Toro, depuis ces histoires d'accusations de plagiat, etc., a clarifié un petit peu les choses sur le cheminement qui a mené à l'écriture du scénario de La Forme de l'eau. Et c'est, sauf erreur, Daniel Kraus, qui est l'auteur avec qui il a fait Trollhunters, Chasseur de trolls, pour Netflix. C'est lui qui lui a donné cette idée-là, alors qu'ils déjeunaient ensemble, et il a optionné l'idée, donc il a payé, machin, c'est officiel, c'est carré. Donc c'est même pas Del Toro lui-même qui se gargarise, entre guillemets, d'avoir eu cette idée-là, même si c'est lui qui a coécrit le film ensuite. Mais il a, voilà, en discutant avec un de ses amis, romancier, qui lui-même dit avoir eu cette idée-là quand il était adolescent, etc. Donc, c'est le propre même des idées comme ça de voyager d'année en année, d'être réadapté, réimaginé par d'autres gens.
Ce que disait Julien, c'est le propre des grands cinéastes d'arriver à prendre dans le zeitgeist, là, effectivement, à saisir des trucs, à les magnifier, à en faire des images. Et évidemment, y a d'autres gens qui se servent aussi dans ce truc et qui en donnent des choses peut-être un peu plus ou moins anecdotiques.
Il a tout pompé sur Splash. Voilà,
c'est ça. Je crois que tu as tout résumé. On s'approche, messieurs, dangereusement.
Pour répondre quand même à la question de l'auditeur.
Des montagnes hallucinées.
J'ai des infos.
tu n'iras pas te coucher, Thomas.
Non,
là, juste la question de l'auditeur sur les montagnes hallucinées. J'ai des infos, comme avait dit Del Toro récemment, mais je garde l'exclu pour Capture Mag bientôt.
Ok, super, ouais. Vraiment bien.
Non,
vraiment
mais ceci étant dit, alors le truc sur les montagnes hallucinées, non, mais moi je n'ai pas les infos d'Arnaud.
Bah, en plus, alors, super. Non, mais
le truc qui est intéressant avec les montagnes hallucinées, c'est que nous, on était allé voir avec Arnaud il y a des années quand il était à Madrid, quand il préparait le labyrinthe de Pan. Et on lui parle des montagnes hallucinées, on lui dit alors, parce qu'il en parlait déjà.
Oui, bien sûr.
Et il disait, ça va pas se faire, les gars. Ouais. Ça va pas se faire. Et là, je te parle en 2000, on était en 2005, je crois, un truc comme ça, quoi.
Ça, ouais,
et en fait, donc on se dit bon, mais peut-être dans 2-3 ans. Il me dit non, laissez tomber. Et des années après, il est revenu avec.
Ouais.
Et du coup, même si en 2011 ça a été arrêté alors qu'il avait James Cameron à la prod, Tom Cruise dans le rôle principal, ils ont fait le deal avec plusieurs studios pour essayer de voir si ça pouvait se mettre en place et que ça s'est pas fait. En gros, là aussi, il a décrété que ça allait pas se faire. Maintenant, le truc avec Del Toro, c'est qu'il a ce
revenir.
Truc qui est quand même formidable, c'est qu'il ne lâche jamais. En fait, ces projets, il y a des trucs qu'il a depuis des années et des années et des années et qui reviennent, quoi.
Espérons. Il faut continuer à croire, messieurs. On s'approche de la fin, vous pensiez y échapper, mais non, il y a encore un jeu.
Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
C'est
le mal de Cobra, ça.
J'ai gagné ? Ouais, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là qu'il faut deviner.
Ah, merde.
C'est après. Donc, vous savez, c'est mon jeu préféré. Forcément, c'est l'instant VF. Un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration.
C'est pas vrai ! Pourquoi tu m'as poussé à faire ça, Victor ? Tu sais que j'ai des responsabilités ici ! Jésus-Christ lui-même, dans sa bonté, m'a accordé plusieurs dons. Par exemple, celui de cogner un mec et de le...
Non, rien. Impossible. Vous trouvez pas ? C'est la honte, hein ? C'est la honte.
Bon. Un film des années 90.
Ça. J'ai un deuxième extrait. Vous voulez ?
Vas-y.
Allez, allons-y.
Alors, la charmante Sorina ici présente sera la victime. Qui se porte volontaire comme violeur ?
Moi, pas de problème. J'y vais.
Prenez-moi.
On va en prendre un seul, les gars. Il s'agit pas d'une tournante. Vous, assis, ce sera Brad.
Captain Orgasmo ?
Non.
Non, merde.
Sérieusement ?
Ouais, mais je dois le connaître.
Qu'est-ce que c'est que ce truc qui encourage la culture du viol ?
C'est No Pain No Gain.
Ah ouais. Oh,
voilà. Ah ouais,
Stéphane.
Parce que
justement, Dwayne Johnson aurait dû être nominé aux Oscars.
Nommé.
Ça, c'est clair.
Nommé. Bordel de merde. Bon, vous êtes tous nuls. On passe à la suite. Il est bien celui-là. C'est moi qui l'ai fait, donc je suis content. Voilà. On va déballer les questions de nos amis internautes qui nous écoutent, nous regardent en direct pour conclure, parce qu'on va pas en prendre beaucoup, parce que ça fait déjà au moins 6 heures qu'on parle, donc on va s'arrêter.
J'ai très envie de pisser en plus.
Ouais, moi j'ai très envie.
Moi je me lève
dans 5 heures personnellement, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Alors Nino nous demande si c'est de l'ordre de l'impossible une suite à Jack Burton avec Russell et Carpenter à la réal en s'appuyant sur la suite sortie récemment en BD Old Man Jack. Hashtag fantasme.
Carpenter, il a pas fait de film depuis 2010.
Ouais.
Il a pas l'air de vouloir revenir à faire des films.
Il fait de la musique.
Voilà, il fait de la musique, il joue aux jeux vidéo.
C'est pas mal. Ouais,
musique. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Mais et puis vous pouvez remater ce film accessoirement.
C'est vrai.
Ouais. Et puis est-ce que t'as, enfin c'est mais pareil.
Vous avez envie de voir ça ?
Ouais, c'est ça.
Non, pas du tout moi, Mais moi, c'est Nino qui demande.
Toutes ces suites qui arrivent 30 ans après, on s'en bat les couilles, non ?
Ah oui.
Enfin, je veux dire, j'ai pas de bon exemple en fait de. Blade Runner 2049.
Ah si, il y avait la suite du 3 bébés un couffin là, 3 bébés un couffin dont vous avez parlé tout à l'heure quand même.
18 ans après.
Ah,
formidable quoi.
Ouais, très non, bon
mais, donc c'est un peu un problème ce genre de truc avec 30 ans après.
Ouais, c'est
grand Dutch.
Moi j'y crois pas
mais
bon.
Je suis sûr là dans ma tête, je suis sûr qu'il y a une suite qui est pas mal.
Ouais.
30 ans après mais j'arrive pas à la trouver.
Ouais. Ça doit exister.
Ouais.
Puisqu'on parle des suites, il y a
il y a les 3 mousquetaires mais bon, c'est en bouquin.
Certes.
20 ans après.
C'est vrai.
C'est magnifique.
Non mais très bien, Alexandre Dumas, magnifique.
Ah.
Très bien Arnaud. Clint Eastwood nous demande, c'est son nom, il s'appelle Clint Eastwood, c'est pas moi.
Clint Eastwood,
ouais. Voilà.
Parce qu'il y a qu'un seul Clint Eastwood.
Oui, je sais bien, on en parlera bientôt dans nos ciné. Donc Clint Eastwood nous demande, à propos de la fausse bande-annonce Dundee et devant son succès apparent, ne craignez-vous pas l'engouement soudain d'un producteur pour le sujet et la mise en chantier d'un vrai projet, comme toutes ces suites préquelles justement qui arrive 20, 30, 40 ans après, qui n'ont pour l'heure rien donné de bon.
Mais alors moi je pense que c'est possible. Hein.
Ouais.
Et ça peut être un coup même comme pour Deadpool en fait.
Ouais.
C'est, on a oublié en fait comment c'est monté Deadpool. Ouais, ouais. Hein, Deadpool, ça a été le ce qu'ils appellent le proof of concept, qui était un animatique en fait un peu soigné, conçu par Blur Studio, qui a faussement fuité sur Internet. Et c'est alors je sais pas si parce qu'ils ont jamais voulu communiquer là-dessus parce qu'ils avaient légalement ils avaient pas le droit en fait de le faire. Donc je ne sais pas si c'est la Fox qui a fait ça pour tester l'engouement ou si c'est le Real et Ryan Reynolds. Apparemment ce serait le Real et Ryan Reynolds pour greenlighter le projet. Donc cette bande-annonce, ça peut être aussi ouais. un montage comme ça.
Bah, apparemment c'est une bande-annonce qui est faite pour vendre comment dire, enfin c'est un spoof en fait d'une bande-annonce qu'avait fait comment il s'appelle, Paul Hogan dans les années 80. Si j'ai bien suivi, après tu as peut-être plus d'infos que moi. Mais en fait il avait fait une pub pour l'office du tourisme pour les Américains en fait pour venir en Australie et là ouais. C'est la même chose en fait, c'est ça hein. C'est un truc en fait où c'est fait pour vendre l'Australie aux Américains.
Tu sais pas quel était le but. J'ai vu passer ce truc, j'ai cru que le film allait
regarder parce d'accord. que moi je suis un grand fan de Crocodile Dundee.
Ah, moi aussi, bien sûr.
Donc le premier, hein, ça, parce que le deux ils ont un peu merdé, mais le premier il est pas mal quoi. Avec les Géraldine et tout ça. C'était, voilà. Non mais je vois les gueules de mes amis là sur la table. Quoi. Donc moi j'aime bien Paul Hogan de cette époque-là. Quoi. Non mais c'est pareil encore une fois.
Ah ouais, non mais moi je suis.
Après est-ce qu'on craint vraiment ça?
Est-ce qu'on en a vraiment peur? On a rien à foutre. Oui, voilà, qui s'en fout ouais. Allez, tout le monde lève la main. Question pour Arnaud. Outre le fait que Raboudaï nous dit Arnaud Bordas s'embellit avec le temps, parce que tu as un constat que nous partageons tous autour de cette table, que tu t'embellis avec le temps.
Ah,
c'est vrai que
on dirait Lord Byron.
Tu es de plus en plus gros.
Oui, hein,
je suis extrêmement excité quand je te vois. Mais Samurai Jack nous demande, Arnaud peut-il nous parler de Manhunt de John Woo, notamment du clip qu'il a vu à Cannes?
Bon, non,
quelqu'un qui est assez renseigné sur ta vie visiblement.
Oui non mais ami, j'en avais parlé dans les podcasts Nos Ciné de Cannes animés par notre ami David Honora, donc j'ai pas grand chose de plus à dire dessus.
Juste, pardon, il y a David Honora qui justement nous envoie un message, un exemple de suite pas mal longtemps après.
Merci David.
Mad Max Fury Road.
C'est vrai que Mad Max Fury Road c'est pas mal.
C'est pas dégueu.
Ceci étant dit,
merci David
c'est bon truc. Ceci étant dit, le truc avec Mad Max Fury Road c'est que c'est quand même un film qui était développé quasiment 20 ans avant avoir été fait.
Ouais. Non, mais là on passe quand même pour des gros.
C'est vrai qu'on passe pour
des gros. Mais c'est pas grave.
On le regarde plus, Mad Max Fury Road, on l'a survendu.
On le vit.
Hein, voilà.
On le vit tous les jours. Qu'est-ce qu'on disait, Arnaud?
Non, bah, pour répondre à la question, je dis à l'auditeur de se rêver, parce que je ne vais pas refaire tout un speech sur les 10 minutes que j'ai vu à Cannes, mais il y a les podcasts qui sont toujours dispo sur Binge Audio, je pense, de Cannes 2017, qu'on avait fait avec David et compagnie. Ouais. Et j'en parlais dedans, donc voilà, qu'il aille voir. Voilà.
Très bien, très bien. Très bien. Horatio Kane, c'est pas son vrai nom, nous demande, que pensez-vous des premières images de Ready Player One? Il me semble qu'on avait déjà parlé de ça, je ne sais plus. Je me souviens plus. Ready Player One, premières images.
C'est super excitant.
Voilà, Spielberg, de toute façon, on est content.
Hein. C'est pareil. Moi, j'attends énormément de savoir ce qu'il va faire en fait de ces citations en fait, de comment il se positionne là-dessus, en quoi du côté film postmoderne. Ouais. Surtout aujourd'hui.
C'est-à-dire, moi, ce que je ne comprends pas, c'est sur Internet les réactions des gens qui disent alors il va faire un film doudou lui aussi. C'est-à-dire comme toute la tendance à l'heure actuelle pour les trentenaires, quadragénaires nostalgiques des années 80-90 ou même des ados hein, qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, c'est d'ailleurs le sujet du film. Moi je me demande comment les gens peuvent attendre de Spielberg qu'il fasse un film, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme truc doudou là récemment, enfin qu'il fasse un truc à la Stranger Things. Non mais attends, je termine. Qu'il fasse un truc à la Stranger Things venant de la part déjà d'un gars qui a initié toute l'imagerie de cette époque-là et l'imagination de cette époque-là, et surtout qui n'a jamais fait de film comme ça, bêtement nostalgique, de contreplaqué, de trucs comme ça. Je veux dire, il suffit de regarder, c'est un film de science-fiction, il suffit de regarder les 3-4 derniers films de science-fiction de Spielberg, c'est-à-dire A.I., Minority Report, La Guerre des Mondes, pour mesurer l'ambition du bonhomme pour le genre. Ceux qui attendent ça de la part de Spielberg sur Ready Player One, c'est des gens qui ne connaissent pas Spielberg, c'est pas possible.
Surtout qu'il suffit de regarder les bonnes annonces, donc, parce que là, on est dans l'absurdité totale du truc. Hein. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, le doudou, c'est quoi? C'est ça, quand ils remettent le truc dans les années 80, c'est Stranger Things ou ce genre de choses. En fait, c'est Super 8, ce genre de trucs, qui sont en fait des trucs qui
artificiels.
Non, mais pas seulement artificiels, qui demandent en fait, qui propose au spectateur de revenir à leur enfance, même si c'est quelque chose de complètement refabriqué. Là, en l'occurrence, ça se passe dans le futur, le film. Donc ça, c'est le premier truc.
Mais moi, j'ai du turfu personnellement.
Non, mais voilà. Donc t'as comment dire, t'as dans le licensing du film. Bon, évidemment, t'as le géant de fer, si tu veux, ce genre de choses. Mais t'as aussi des personnages d'Overwatch, quoi, qui est un jeu qui est sorti en 2016. Hein. Ouais. Donc faut arrêter de voilà. Donc doudou de qui? Doudou de quoi là? Exactement. Enfin, je veux dire, on parle d'un film qui te parle d'une époque qui n'existe pas, qui est dans le futur. Donc si le film ne parle pas de l'avenir, je vois pas de quoi il parle. C'est quand même assez évident quand tu te retrouves avec ce truc, quoi.
Surtout le côté patchwork, quoi. C'est ça. En fait, le fait de faire s'entrechoquer tous ces univers qui sont aussi disparates, quoi. Ça, je suis extrêmement curieux.
Moi, je pense que c'est une bonne grosse merde. Mais bon.
Tu iras le voir comme un Zack Snyder, quoi.
Voilà. Ouais, voilà.
Je l'avais pas vu venir, c'était bien.
L'art du contrepoint.
Jean-Michel dénonce. Ah, c'est bien, c'est comme ça. On va prendre, une ou deux dernières. Léo qui nous demande, que pensez-vous de la relève du cinéma coréen en termes de cinéma de genre grand public? C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler de ces films. Je pense au Dernier Train pour Busan, par exemple, ce genre de choses. Un avis? Pas d'avis.
Le réalisateur qui sort son nouveau film là bientôt, Psychokinesis, je crois,
qui est un truc de super-héros un peu.
Voilà, qui fait quelque chose de complètement différent de Busan. Et c'est assez marrant, moi, en fait, parce que j'ai regardé la bande-annonce sans grimper au rideau, hein, mais tu te dis que ce qu'il a fait avec Busan, ce qui était très intéressant, moi je trouvais dans Dernier Train pour Busan, c'est qu'il prenait un genre, le film de zombies, et qu'il en faisait finalement quelque chose d'assez grand public, mais pas au sens forcément édulcoré, parce que c'était quand même assez violent, il y avait quand même
ça se passe d'abord dans Paris-Rennes, parce que c'est quand même les mêmes trains que chez nous, ça.
Voilà. Mais je pense que c'était surtout ce qui était intelligent là-dedans, c'est que ça visait beaucoup l'émotion, quoi. Alors il y avait aussi de l'humour, il y avait de l'héroïsme, il y avait des trucs très émouvants, tout ça, c'était très panaché, mais c'était quelque chose qui était beaucoup calé sur l'émotionnel. Et donc plutôt que de faire du film de zombies à la Barbac, quoi, le gars, il a préféré essayer de réunir un public peut-être entre guillemets un peu plus, pas familial, mais un peu plus grand, quoi, un peu plus large, autour de ce genre-là, et il l'a très bien réussi. Ce qui est étonnant avec Psychokinesis, c'est que j'ai l'impression qu'il a fait l'inverse, quoi. C'est-à-dire, il prend un genre qui est éminemment populaire à l'heure actuelle, le film de super-héros, mais pour en faire quelque chose de beaucoup plus clivant et de beaucoup plus barré, quoi. Donc, je sais pas. Après, on verra ce que le film aussi, hein, parce qu'on n'en voit pas des tonnes d'images en balance. Mais je suis quand même curieux de voir ça.
Mais il y a régulièrement des bonnes surprises. Dans quelques semaines, j'espère qu'on parlera d'un film coréen qui s'appelle Battleship Island, qui est assez incroyable et qui est à la fois populaire, extrêmement radical, très déstabilisant et totalement enthousiasmant. Et
nous en parlerons. Ils sont fous, les Coréens.
Ils s'en foutent, c'est vrai. Et il y a des questions, justement. On nous demande si on attend des choses du prochain Clint Eastwood. Eh bien, vous aurez la réponse bientôt dans nos ciné, car nous y consacrerons une émission. Voilà, vous n'aurez qu'à écouter. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Nos Ciné Club. Merci à Quentin, la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. À vous de nous avoir suivis et d'avoir posé des questions, d'avoir commenté sur Facebook, YouTube. Merci beaucoup. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.